France Inter, Laetitia Gaillet, le 6-9 de l'été.
À 8h40, c'est l'heure de la revue de presse avec Claire Checaglini. Bonjour Claire.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
Le JDD est allé interviewer Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé des familles, et il veut s'attaquer au tabou de l'inceste.
Adrien Taquet veut en effet mettre en place une commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants. Le secrétaire d'État détaille, elle sera centrée pour l'essentiel sur le cercle familial dans lequel ont lieu 80% des violences. Son modèle, la commission Sauvé, mise en place dans l'Église pour qu'éclatent enfin les affaires de pédophilie. Alors le secrétaire d'État à la famille donne une estimation du nombre de victimes d'inceste en France. Elle serait 4 millions. Chiffre obtenu à partir d'une étude américaine, la seule de grande ampleur sur ce sujet. Il en était ressorti que 6% de la population avait subi ce type d'abus sexuels. Pour mettre au jour donc ces abus, la nouvelle instance sera composée de magistrats, de médecins, de psychologues et de sociologues. C'est trop facile de dire que Matzneff, c'est l'histoire d'une époque, d'un milieu, d'un quartier de Paris. La vraie question qui doit nous interroger, c'est pourquoi cela a mis 30 ans à sortir alors que beaucoup savaient, explique Adrien Taquet. La nouvelle commission sera lancée à l'automne à l'occasion des états généraux de la protection de l'enfance.
Autre membre du gouvernement auquel s'intéressent vos journaux ce dimanche, Jean Castex, à qui l'on promet un été brûlant et itinérant.
Oui, car Jean Castex, le Premier ministre, est à l'épreuve du feu, titre le journal du dimanche, et l'hebdomadaire avertit que l'été peut être meurtrier en politique, surtout en période de crise sanitaire. Et c'est Le Parisien qui rappelle le syndrome Jean-François Mattei, alors ministre de la Santé en 2003, et commentant la canicule en polo dans le jardin de sa maison de vacances dans le Var. Aucun risque pour l'instant de voir un Jean Castex aussi décontracté et déconnecté, car il a la bougeotte, titre Le Parisien. Le Quotidien qui a comptabilisé 14 déplacements en 4 semaines. Besançon, Nantes, Dijon, Nice, la Guyane, Bourg-en-Bresse, Corbeil-Essonne, entre autres. Et 2 ou 3 autres déplacements sont déjà au programme de cette trêve estivale. Alors, que cache cette hyperactivité, cette frénésie? Castex compense un déficit de notoriété, pointe un député de la majorité dans le JDD. Il faut passer du gouvernement bande-annonce au gouvernement des résultats, avertit Damien Abad, le chef de file des Républicains à l'Assemblée nationale.
Et dans le monde, Claire Checaglini, cette fois, on s'éloigne des logiques de communication pour toucher à une générosité exemplaire, celle de ceux qui hébergent de jeunes migrants.
Et à lire leurs témoignages, ils ont fait au moins autant de chemin que ces migrants qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour rejoindre la France. Ces bienfaiteurs s'appellent Pascal, Béatrice ou Georges. Ils ont ouvert leurs portes à de jeunes migrants en détresse. Ils sont plus portés par un devoir d'humanité qu'un élan politique, écrit Julia Pasquale. Parmi les rencontres de la journaliste, Georges, 72 ans, parisien, hébergeur de quelques jours d'un jeune Afghan, du moins c'était le contrat initial pour dépanner une association. Ce n'était pas un acte raisonné, explique Georges. Puis les mois ont passé, Abdoul est toujours chez le septuagénaire et vient tout juste d'obtenir son statut de réfugié. Un parcours en forme de périple pour l'un, en forme de révélation pour l'autre. Je viens d'un milieu classique, bourgeois. Est-ce que l'enrichissement est un but? J'y croyais, je l'ai enseigné. Mais je n'y crois plus du tout, reconnaît aujourd'hui Georges. Il fut enseignant en école de commerce. Ça a changé ma vie, raconte aussi Pascal. Cette quinquagénaire est bénévole pour une association d'aide aux mineurs isolés, mais elle refuse l'étiquette de militante. Un soir, elle est saisie d'effroi en écoutant le parcours de Madjou. Ce jeune Guinéen de 16 ans a vu se noyer en Méditerranée celui qui l'accompagnait et n'a nulle part où dormir. Un demandeur d'asile sur 2 n'a en effet pas de solution d'hébergement, rappelle Le Monde. Alors quand les amis de Pascal la félicitent pour sa démarche, elle est mal à l'aise, écrit Julia Pascal. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. J'en veux à ceux qui pensent que c'est extraordinaire. D'ailleurs, Béatrice le reconnaît elle-même. Sans avoir l'idée de sauver qui que ce soit, j'offre une parenthèse à quelqu'un ainsi qu'à moi-même. Ici, pas de hasard, car la migration renvoie cette ancienne infirmière à sa propre histoire familiale. Alors, elle s'engage dans le tissu associatif. Le programme s'appelle Welcome et Béatrice héberge, autant qu'elle aide sa jeune protégée, dans ses démarches. Désormais, Mifta a trouvé une autre solution de logement, mais précaire. Alors Béatrice se dit prête à rouvrir sa porte pour quelques mois.
Eux aimeraient surtout ouvrir toute leur basilique et pouvoir accueillir le monde entier.
Mais les responsables religieux de Lourdes ne voient aucun miracle à l'horizon de la grotte. La commune pyrénéenne reçoit 8000 fidèles par jour au lieu des 20 000 habituellement. Alors, lourde prix pour le retour des fidèles, titre le magazine M. À chacun ses méthodes donc, puisque comme le rappelle Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, je suis prêtre, pas chef d'entreprise, quoique, si la foi reste un mystère, demeure le problème bien terre à terre des finances et donc des 8 millions qui ne rentreront pas dans les caisses cette année. Une perte énorme pour cette quasi-PME qui a besoin de 30 millions par an pour ses 320 salariés, son terrain de 52 hectares, ses trois basiliques, ses hébergements, précise l'hebdomadaire. Au grand mot, les grands remèdes, les saintes autorités de la cité mariale ont fait appel à une agence de communication. La prestigieuse agence Havas a donc organisé un e-pèlerinage. Lourdes United est alors suivi mi-juillet par 80 millions de fidèles. Si le pèlerin ne vient pas à la grotte va chez le pèlerin, écrit le magazine. Impossible de connaître toutefois le coût de l'opération, ni le montant des dons amassés. L'argent, si nécessaire soit-il, reste tabou dans l'Église. Les voies du Seigneur sont décidément impénétrables.
Effectivement, merci Claire Checaglini.